Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Objectif numérique, épisode 42. Au menu, un huitième défi photo, des questions sur les filtres densité neutre, des objectifs mi-tacon, optimiser ses photos pour Facebook, la GoPro Hero 3 et la Hero 3 Plus, le test de Perfect Photo Suite 7.5 et le test du Ricoh GR. Stéphane Vaillancourt au micro avec mes deux collaborateurs habituels, Christian Jarry.
Bonjour Stéphane.
François Blanchette.
Salut.
On va tout de suite lancer le huitième défi photo pour lequel nous avons un prix de Zenfolio, mesdames et messieurs. Zenfolio qui est un site aussi d'hébergement de stockage de photos en ligne et sur lequel vous pouvez créer votre portfolio et même vendre vos photos. Il y a des options de configuration, de personnalisation de votre portfolio et tout ça, c'est vraiment génial. Il y a une application mobile aussi. Et les gens de Zenfolio offrent un abonnement d'un an, évidemment, aux gagnants. Donc, je crois que c'est une valeur de 60$, quelque chose comme ça. Et à tous les auditeurs, Zenfolio offre un rabais de 20% sur un abonnement.
Hey, c'est magnifique.
Vous n'avez qu'à taper « numérique 20 ». Essayez-le en majuscule, je suis pas certain, mais moi, on m'a donné le code numérique 20 et vous obtenez 20% de rabais à votre abonnement à Zenfolio. N'est-ce pas merveilleux?
Ça nous fait plaisir.
Et voilà. Le pire, c'est que Christian et François n'étaient même pas au courant du prix.
Non, en effet.
Est-ce qu'on peut participer à ce rabais?
Ah oui, vous pouvez en profiter. Pourquoi pas? Vous ne pourrez pas gagner le prix, l'abonnement d'un an, mais vous allez avoir un 20% vous aussi.
Bon, mais...
D'ailleurs, moi-même, j'en ai profité donc du 20%.
Eh bien, allons-y voir.
Et voilà. Donc, huitième défi photo portera sur la nuit. On va pratiquer la photo de nuit.
J'aime beaucoup le sujet.
Oui.
Moi aussi, j'adore.
Et exceptionnellement, pour le plaisir... Si ça vous tente de participer, vous pourrez participer, mais vous ne pourrez pas gagner, messieurs. Vos votes, les votes qui vous seront attribués ne compteront pas. Mais ça serait le
parfait.
Fun.
Ouais,
même, okay. Je pense que moi aussi, je vais participer.
OK.
On se met un défi.
On tape là-dedans, là?
Oui.
Oui.
OK. Et voilà, c'est
donc, fait. Évidemment, comme on vous le dit, et je vais l'écrire en caractère gras, majuscule, partout, ne votez pas pour nos photos à Christian, François et moi, car les votes ne seront pas comptabilisés.
Moi, je vais passer des commentaires, par contre.
Oui, moi, je dis voter, mais on ne comptera pas ces votes-là.
Ah, aussi, si vous voulez voter.
Pour une rare fois, vous pourrez voter en double.
Ouais.
Ou on se fera deux. Tiens, on fera deux différents. Deux albums différents. Ouais, lequel des trois qui est meilleur?
François, son esprit compétitif.
Oui, je sais.
Bon, alors, vous voterez pour moi. Alors.
C'est pas parce que tu es l'animateur que tu as des passe-droits.
Non? Ah. C'est pour ça que j'avais pris le poste au début. Non? Enfin, trêve de plaisanterie, passons au premier sujet, qui est une question sur les filtres à densité neutre et à laquelle François va répondre.
Oui, alors Jérémy de Cressac nous a envoyé un email. Il mentionne ceci. Il a acheté un filtre ND8 pour pouvoir faire des longues pauses photo durant la journée. Évidemment, on pourrait référer à ce qu'on a déjà parlé, comment prendre des ruisseaux, des chutes d'eau le jour pour avoir une espèce d'effet laiteux là, de longue exposition parce que le jour, il y a tellement de lumière qu'on ne peut pas vraiment fermer assez le diaphragme. Donc, si on place des filtres qui vont couper la lumière devant, on va pouvoir arriver à ralentir la vitesse.
Et d'ailleurs, j'ai une confession à faire. J'ai reçu un filtre ND8 depuis à peu près 2 mois et je ne l'ai pas encore essayé.
Ah, mais
honte à moi.
Ça va me faire plaisir de l'utiliser pour toi.
Oui, même chose pour moi.
Ben, c'est un filtre sur eBay là, que j'ai pris à rabais juste pour m'amuser, mais j'ai même pas encore pris le temps de m'amuser avec. Enfin. Non, je pense que j'ai pris une photo ou deux dans ma cour arrière, mais c'est tout.
C'est bon. Donc, Jérémy, ce qu'il voudrait savoir, c'est s'il superpose 2 filtres ND8... un par-dessus l'autre, ou en fait un devant l'autre, est-ce qu'il pourrait arriver à avoir un ND64? Alors, oui, Jérémy, ça va donner exactement ND64.
8 x 8?
Oui, exactement. Sa question, est-ce que ça va créer des artefacts ou des trucs comme ça? Oui, ça va en faire. Ça dépend de quel filtre.
De la qualité de ton filtre.
Oui, ouais. C'est ça. Il y a des filtres qui existent qui vont très bien fonctionner. Ceux qui vont moins bien fonctionner, c'est ceux qui ont un verre. Comment je pourrais dire ça? Sur le côté du filtre, c'est un verre qui est ouvert. Donc, il n'y a pas de frame autour, il n'y a pas de...
De châssis.
De châssis, exactement. Okay. Si ce filtre-là permet d'avoir de la lumière qui entre par le côté du filtre, il va avoir un paquet d'effets indescriptibles que moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, mais ce que je sais, c'est que ça va créer des réflexions non voulues.
Ah, mais ça serait comme avec des filtres carrés, comme les filtres coquins, là?
Exactement.
OK.
C'est exactement ça.
Parce que
ça.
Des filtres qui vissent, il n'y a jamais de côté en verre, c'est toujours un châssis métallique. Exact.
C'est ça. Dans ce cas-là, on n'aurait pas de problème.
OK.
Encore faut-il que ces deux filtres-là, avec un châssis, puissent se coller vraiment ensemble.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que s'il y a de l'air entre les deux, il y a aussi de la lumière. Et là, on assiste à un rebondissement infini de lumière.
Mm-hmm.
Et ça va créer aussi des effets pas nécessairement désirés. Si vous êtes adepte de cinéma, vous allez sûrement voir ça des fois dans certaines scènes de soir. Je donne un classique, là. On voit une voiture le soir sur la rue avec ses deux phares allumés. Puis il y a une espèce de lumière fantôme juste au-dessus ou juste en dessous.
Mais pas dans l'eau, je parle. C'est pas un halo autour, c'est une lumière fantôme qui est comme au-dessus du
Wall. Oui, oui,
ça, c'est
oui.
Le résultat de deux filtres, un arrêt de l'autre, avec de l'air entre les deux.
Aha.
Donc, il y a une double réflexion qui se crée. Ça donne ça. Certains cinéastes veulent avoir cet effet-là pour une raison qui...
Et d'autres, comme J.J. Abrams, veulent du lens flare, mais c'est une autre histoire.
Bon.
Non, il s'est excusé d'ailleurs pour la quantité abominable de lens flare qu'il a utilisé dans ses émissions ou ses films. Mais...
Geek! Oui, excusez.
Donc, si on se retrouve avec un filtre coquin comme ça qui a des côtés avec que la lumière pourrait entrer, ben c'est pas compliqué. Prenez un beau petit ruban noir, puis vous allez entourer votre filtre de ruban-là. Ça va toujours bien empêcher la lumière d'y entrer. Ça va éliminer vraiment quelques réflexions indésirées.
Et ça éloigne les voleurs parce que c'est moins sexy un appareil avec plein de rubans noirs autour des filtres.
Oui. Attention.
Ouais,
exactement. Il nous mentionne qu'il avait acheté un filtre. Ça, je connaissais pas ça, ce produit-là, donc je suis allé googler voir c'était quoi. Un filtre ND Vario. Donc, c'est un filtre circulaire. Un peu à la manière d'un polarisant, quand on le fait tourner, ça va varier la force de ton ND, de la lumière qui entre.
OK.
Il disait que ça semblait plus adapté à la vidéo. Je vois pas pourquoi que ça serait plus adapté à la vidéo. Ça va être le même résultat optique en bout de ligne, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. Il enlevait ça de ses choix de ND. Donc, j'irai avec un dernier conseil. Tant qu'à avoir deux filtres ND, Jérémy, tu pourrais utiliser deux filtres ND de valeurs différentes.
Mm-hmm.
Pourquoi? Ça va te donner plus de flexibilité dans certaines situations. On ne veut pas toujours avoir un ND8, absolument. Des fois, ça peut être un ND3, ND6, ND12, il y en a même plus que ça. Donc, j'irais avec deux valeurs différentes. Et puis, comme ça, on aurait plus de flexibilité. Et puis, on peut toujours coller les deux filtres ensemble. Ça va très bien fonctionner en supposant qu'on suit les conseils de ne pas laisser d'air entre les deux pour pas qu'il y ait de réflexion et de cacher les côtés du filtre si ce n'est pas déjà fait.
Excellent. Et avant de passer au sujet de Christian, j'ai une petite annonce à vous faire, messieurs. On va avoir le Canon 70D entre les mains.
Tu viens d'avoir la réponse.
D'ici quelques jours.
Ah.
Et donc, un test probablement pour le prochain épisode.
Ça va me faire plaisir de le tester.
Et moi?
Je vous inviterai, on ira au parc à Montréal quelque part.
Moi, ok, d'abord, non, mais j'ai un dé d'affaires. Ok, parfait. Tu lui laisseras ça, moi je prendrai le 6D d'abord.
Ok.
Moi je dis roche-papier-ciseaux.
C'est bon ça.
Roche-papier-ciseaux, lézard Spock, c'est ça?
non. Star Trek, non.
Non, c'est Big Bang Theory. Enfin.
Ah, ok.
Christian, vas-y avec
Geek.
Oui, je voulais continuer sur la lancée Geek.
Objectif Mitacon, avez-vous déjà entendu parler de ça, vous autres?
Non.
Moi non plus. J'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais Samyang. J'avais déjà vu quelques objectifs de eux. Eh bien, Mitacon, c'est un nouveau fabricant qui veut se lancer pour faire des objectifs bas de gamme. On s'en cachera pas. On va utiliser les termes comme ils sont. c'est des bas de gamme. C'est le genre d'objectifs qui sont complètement manuels. On parle d'objectifs là, qu'il n'y a pas d'autofocus dessus. Deux des objectifs qui veulent sortir, il y a un 85 mm à f2 et un autre 135 à f2.8. Ce qui est intéressant, ils ont donné un design très, très, très semblable aux objectifs de Leica.
OK.
C'est... Au moins, je trouvais que les Samyang, justement, bon, ça paraissait très, très bas de gamme. Dans ce cas-là, au moins, ils sont allés un petit peu... le design, ils ont travaillé un peu dessus, tu sais. C'est quand même pas si mal, là. Tu sais, t'as pas trop l'impression de te promener quelque chose en plastique, là. Ils ont aussi une autre chose qui s'appelle un réducteur de focale au facteur 0.72 que tu vas pouvoir utiliser sur des appareils, des objectifs d'appareils réflexes. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça te permet de transformer ton ouverture maximum, mettons qu'elle est de f2, elle va devenir de f1.4.
Okay.
Ça rajoute de la luminosité dans ton appareil.
Comment?
Parce que ça l'éloigne. Regarde, je suis pas un expert, j'ai lu. J'avoue que je comprends plus ou moins ce qu'il explique, là, parce que là, ça commence à être très, très technique, mais ça marche.
Okay.
Pour de vrai, j'en ai même vu un qui transforme ton, je pense, c'est d'une 1.4 en 0.95. Et ça fonctionne, pour de vrai.
Okay.
C'est une question de... Il éloigne l'objectif de ton capteur, puis ça va donner avoir un résultat comme ça. En tout cas.
Oui, parce que si tu l'éloignes du capteur, donc tu t'approches du bout ou de la lumière, si tu veux, puis donc tu as plus de lumière, je sais pas.
Je comprends pas trop. Non, je vais être bien franc, là, je l'ai lu 2-3 fois, puis... Quand je suis pas capable d'expliquer quelque chose, je m'embarque pas dans essayer de l'expliquer. Tu sais.
Tu fais bien.
Mais tout ça pour dire que moi-même, j'étais le premier sceptique, puis j'ai vu quelques critiques de ces affaires-là sur Internet, et ça fonctionne pour de vrai.
Okay.
Fait que ton objectif 24-105, ben, va devenir 24-105 F4, va devenir 24-105 F2.8.
OK.
Fait que bref.
C'est quand même énorme, là, comme différence.
Oui.
C'est pas juste 0.3 ou.
Fait que, en tout cas, on va garder l'œil là-dessus. Je suis curieux. On ne sait jamais ce que ça peut donner.
Parfait. Et maintenant, on passe à un petit topo truc pratique. François va nous parler d'optimisation de photos pour Facebook.
Oui, puis ça sera pas tellement long à expliquer. C'est pas un gros topo. C'est pas quelque chose de bien difficile à comprendre. C'est que Facebook, en fait, plusieurs personnes ont remarqué qu'en uploadant ces photos sur le site, après on regarde les photos, puis il y a vraiment une réduction incroyable de qualité.
Oui.
Il y a des situations...
C'est effroyable des fois,
sincèrement. Ouais, il y a des situations qu'on se rend compte que, ben voyons donc, c'est pas ma photo, là. Ou dans les zones foncées, dans les zones claires, ça marche pas. Il y a un dégradé de couleur qui se peut pas, comme un système 16 bits, tu sais, des années 80. Okay. C'est
8 bits.
8 bits. Ouais, 8 bits, ouais. Steph, excuse-moi. T'as raison, 8 bits. Pour vous donner toutes les chances d'avoir les plus belles photos possibles sur le réseau Facebook, il y a des choses à faire. Pour avoir la photo de couverture, en fait, c'est la photo de votre profil, là, celle, la grosse photo en haut, il faudrait remettre la résolution à 851 par 315 pixels. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ça que le site va faire quand vous allez uploader votre photo. Que vous le vouliez ou non, c'est ça qui va arriver. Donc, donnez-lui tout de suite cette résolution spécifique-là. Il n'y aura pas à travailler ça et la compression n'en sera que meilleure. Si on veut uploader sa photo de profil, on doit utiliser une résolution de 180 par 180 pour les mêmes raisons. Ça va juste empêcher d'avoir un résultat assez piètre, disons.
Et sinon, on peut, je pense, recadrer quand on upload sa photo.
Oui, si on l'envoie trop grande. Ouais. Et là, en fait, je vais aussi mentionner ça. C'est préférable d'envoyer une photo toujours plus grande que plus petite que les dimensions que je viens de vous donner. Pour des raisons assez évidentes, que le site va redimensionner à 180. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas assez de pixels, il va en créer. Ou il va carrément zoomer dans la photo, ce qui va donner... moins
un
de détails.
Effet 8 bits.
Puis... on pourrait aller jusqu'au 8 bits.
Ouais. Puis vos dimensions, pensez-y aussi pour dépendant du sujet que vous voulez donner, hein, soit dit en passant. Il y en a qui ne pensent pas à ça. Puis j'en ai vu combien que la moitié de la tête est coupée sur la photo de couverture.
C'est pas super
beau. Là.
En effet.
Donc c'est vraiment les dimensions respectées pour avoir une belle photo de profil puis une belle photo de couverture. quand c'est le temps aussi de sauvegarder sa photo, sélectionnez toujours le profil sRGB. Pourquoi? Parce que c'est ça que Facebook va utiliser. Des fois, on peut travailler dans d'autres profils avec certains programmes. Facebook va utiliser celui-là, donc donnez-vous une chance et choisissez celui-là. Les photos qu'on va publier sur la page ou dans un album de photos, ah ben là, on a plusieurs choix. On peut y aller en 720 pixels, 960 pixels ou 2048 pixels. Là, je parle de largeur.
Mm-hmm.
Évidemment, pour la hauteur, on garde le ratio de la photo originale.
Mm-hmm. Que ce soit 3 pour 2 ou 4 pour 3 c'est ou ça. 16 pour 9.
Exactement. Si on upload une photo en 2048 pixels, il faut choisir la haute qualité. Sinon, encore une fois, le site va vous compresser ça.
Mm-hmm.
Donc, sélectionnez que vous voulez la garder en haute qualité et ça devrait vous donner de bons résultats.
Deux petites parenthèses. La première, moi, c'est Éric Santerre, le premier que j'ai vu, qui a remarqué ces trucs de dimension-là et qui m'a un peu inspiré le sujet. Donc, on salue Éric. Ouais. Et la deuxième, pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur les profils de couleurs, on en a parlé à l'épisode 34. Alors voilà, toi, ça faisait le tour pas mal de ton sujet.
Oui, oui.
Ben merci beaucoup, François, pour les précisions.
Et maintenant que notre ami François a donné quelques trucs, ben moi, je vous annonce tout de suite qu'au prochain épisode, je vais vous donner la même chose, des petits trucs pour Google+, pour essayer d'avoir des photos le plus optimales possible.
Parfait. Donc, on revient immédiatement à François, qui va nous parler de la GoPro Hero 3. Ça fait quand même un petit bout de temps que tu as une Hero 3. Hein,
oui, puis depuis le temps que tu me demandes d'en parler, ben ça y est, c'est fait.
Enfin.
Oui, parce que c'est pas nouveau comme appareil. Ça fait un an, presque.
Près d'un an.
Moi, j'ai acheté la mienne au mois de décembre l'année passée.
Et il a fallu que GoPro fasse une annonce d'un presque un nouveau modèle pour que finalement François se décide à en parler.
Oui. Mais bon, c'est une question de sujet. On avait d'autres sujets super intéressants aussi. Pour ceux, bon, là je m'adresse à ceux qui ne connaîtraient pas la GoPro. La GoPro, c'est un petit appareil photo et vidéo qui est souvent utilisé en mode vidéo, qui est tout petit. Vraiment tout petit, on parle d'à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 5 cm par 6 cm. C'est vraiment un tout petit appareil de très haute résolution. Vous avez tous vu des images de cet appareil-là,
Je vais vous dire deux mots. Red Bull.
Oui. Exactement, c'est le meilleur exemple.
C'est tout fait avec ça ou à peu près.
Oui. Pourquoi? Parce que c'est des appareils qui s'insèrent ou qui s'installent à des endroits où un DSLR ne peut pas aller.
Sur un casque, un petit harnais sur le ventre.
Ouais.
Sur une planche de surf.
Oui. Au bout d'une planche de surf.
C'est assez hallucinant, celle-là, d'ailleurs, vous ne l'avez pas vu.
Oui, ça va dans toutes les situations. Puis ça se limite à la créativité de la personne. Parce que franchement, il y a toutes sortes d'accessoires pour la fixer sur n'importe quoi, cette caméra-là. Donc, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, cet appareil-là. On parle d'environ 400$ à peu près, entre 3 et 400$, dépendamment du modèle qu'on choisit.
C'est accessible, c'est abordable.
C'est super accessible. Les résultats que ça donne, ça vaut le prix. Là. Franchement, là, les endroits qu'on peut foutre ça, là, cet appareil-là, comme je disais, ça se limite à la créativité de l'utilisateur. Mm-hmm. Moi, je compare ça au monde des téléphones à un iPhone, en termes de popularité. Dans les téléphones, dans les smartphones, on peut dire que 3/4 des personnes qu'on connaît possèdent un iPhone. Pour le moment, ça va peut-être changer.
Ça a pas mal changé en ce moment, mais oui, je comprends quand même ce que tu veux dire comme parallèle.
Ouais. Dans le domaine des caméras sport ou en anglais, on dit action sports. Là,
des caméras compactes que tu peux porter facilement. Ouais,
des caméras d'action.
C'est la GoPro qui est en haut de la liste. Ouais, il y a d'autres manufacturiers, Sony qui en font, d'autres Contour qui sont beaucoup utilisés en vidéo, en télévision.
Mm-hmm.
Mais ils n'ont pas arrivé à développer un marché aussi important que GoPro a réussi à le faire, comme Apple a réussi à le faire avec ses smartphones.
Mais tu sais, je disais en blague tout à l'heure Red Bull, mais ça les a beaucoup aidés, sincèrement, toutes ces annonces-là, là, parce que les GoPro sont très en évidence dans leurs annonces.
Ouais. Mmh. Ah ouais, le logo est partout. Oh, on l'installe partout. Donc, la GoPro, la Hero 3, on peut l'avoir en trois modèles différents. Il y a la White, la Silver et la Black. Ils ont toutes trois des spécifications différentes, la Black étant celle qui est en haut de la liste. C'est celle que je me suis achetée. Elle arrive avec une télécommande qui fonctionne par Wi-Fi. On peut aussi la connecter sur une application Android ou iPhone pour la contrôler à distance. Ce qui ajoute vraiment à la polyvalence de l'appareil. On l'installe. Une fois qu'il est installé, on n'est pas obligé d'aller essayer de la recadrer directement. On peut la recadrer en regardant sur son appareil. Puis se servir de la télécommande pour la partir à distance. C'est vraiment génial pour ça. Techniquement, ce que cette caméra-là a, c'est un capteur de 12 mégapixels en mode photo. On peut faire une rafale à 30 images secondes.
Mm-hmm.
Pas mal.
Oui, c'est quand même... Ça prend un bon petit processeur pour réussir à faire ça.
Oui, oui. Une bonne mémoire tampon aussi.
Oui, oui, absolument. C'est un appareil qui peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau avec le petit casing qui vient avec.
Qui vient avec?
Oui, oui, absolument.
Le boîtier?
Oh, ouais. Le boîtier okay. Hydrofuge ou submersible, je ne sais pas comment appeler ça, peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau.
C'est parfait pour observer les requins.
Oui.
Ouais,
les méduses aussi.
J'aimerais mieux les méduses.
Là, je vais dans le mode... je vais dans les spécifications techniques assez rapidement parce que ça fait quand même plusieurs trucs, mais les plus importants à mentionner, c'est que en mode vidéo, cet appareil-là va filmer en 4K. 4K, c'est le nouveau standard qui s'en vient.
Le Ultra HD qui appelle aussi là, à l'occasion. Ouais. Mais il y a plusieurs types hein, d'Ultra HD et de 4K. Là, il faut faire attention. Mais...
Dans ce cas-ci, c'est carrément 4000 lignes de résolution.
Ouais.
4096, j'imagine. Par contre, c'est juste à 15 images secondes qu'elle va le faire.
Ouais.
Bon, c'est un point de vente, mais c'est quand même impressionnant. Mm. Ce qu'elle va réussir à faire à 30 images secondes, c'est du 2.7K, qui est déjà le double.
Mais j'ai une question, je vais t'arrêter là, 2 secondes, excuse-moi. Mais ça donne quoi, 4K à 15 images par seconde? C'est une technique intéressante, mais...
Ça peut servir à faire du time-lapse, entre autres. Où on n'est pas obligé, d'avoir 30 images secondes.
Okay.
On peut, avec certains effets, utiliser juste 15 images secondes pour des vidéos, si c'est ça notre but. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, ça démontre que le capteur est capable de le faire.
Ouais.
C'est déjà bien. Moi, je trouve que c'est
non,
vraiment
non, mais
bien.
C'est juste parce que je me demandais, parce que tu peux pas... Ça sert à rien de filmer vraiment du vidéo à 15 images par seconde.
En 15 images par seconde, comme je te dis, il y a sûrement des situations que ça pourrait servir.
Ouais, peut-être.
Par exemple, j'ai l'intention de filmer une scène avec qui représente une caméra de sécurité en noir et blanc... puis elle est installée plus haut, ben je vais avoir l'effet saccadé.
Mais tu veux pas de définition, si c'est une caméra de sécurité n'est pas supposée avoir une bonne définition.
Non, mais je peux me servir du 4K que ça procure pour zoomer dans l'image, puis ramener ça en HD normal, à 1000 lignes, en allant juste chercher une partie comme on ferait en photo. T'sais. Fait que c'est une des utilisations, mais t'as raison, c'est pas ultra pratique. Le 2.7K qu'elle peut faire en 30
images,
là, ça
commence à en parler un peu plus.
C'est toujours deux fois mieux que le HD. Les autres modes qu'elle fait aussi en HD appelé jusqu'en 60 images secondes. Et là, c'est ça qui devient intéressant. On peut aller jusqu'à 100, 120 et 240 images secondes. Évidemment,
ça, c'est bien.
À chaque mode, on réduit un peu la résolution. Mais pour une application, disons, une utilisation web, une distribution web ou quelque chose comme DVD.
720p à 120 images par seconde, c'est
oui,
très,
c'est
très bon, là.
Oui. Oui, ah oui, oui.
Et,
vraiment.
Ouais, à 240, on tombe en WVGA.
Oui, c'est vraiment pas une grosse résolution.
C'est la définition DVD, 848 par 480.
Oui, j'ai fait un test d'ailleurs à 240 images secondes. Vous pouvez le voir sur le site d'Objectif Numérique. On va mettre le lien. Je me suis amusé à la lancer dans les airs.
Ah oui, t'as
jusqu'à temps qu'elle me pointe tout le long pendant qu'elle est dans les airs, jusqu'à temps que je la rattrape. Vous regarderez l'effet, 240 images secondes. C'est des super ralentis.
Ouais, ouais.
Ça va être quand même assez cool.
Ouais. Il y a 10 ans, on pouvait voir ça avec des appareils qui appartenaient au monde du cinéma pour des ultra ralentis, mais ça coûtait...
Et j'ai les chiffres sous les yeux là, pour la résolution 4K. En fait, il y a deux types. Il y a le 4K tout court et le 4K cine, donc probablement pour cinéma.
Oui.
Le 4K qui est à 15 images secondes, la résolution est de 3840 par 2160, donc c'est 16:9. Et le 4K cinéma, c'est 12 images secondes en 4096 par 2160, qui donne du 17:9 comme ratio.
Ah, d'accord. Si je ne me trompe pas, le 4K ciné, c'est un mode RAW. Donc, il nous permet de travailler encore plus les zones à problème des fois. Pour aller faire de la coloration, pour aller en cinéma.
Et il y a une mention « Only in ProTune ».
Ça, c'est le logiciel
fourni
par GoPro.
OK.
Qui va traiter le fichier RAW. Je ne sais pas s'il l'appelle RAW, mais bon.
Ben, ça, c'est l'équivalent.
RAW, ça veut dire que c'est...
fichier non compressé.
Exactement. Qui va permettre de vraiment jouer avec les couleurs, les contrastes, le détail, tout ça, d'une manière plus efficace que le fichier compressé.
Mais je viens d'entendre que ça vient même avec le logiciel d'édition vidéo. Que tu pas payé par curiosité?
Je l'ai pas testé.
Okay.
Moi, la Black Edition que j'ai achetée l'année passée n'avait pas de logiciel avec. Je pense que c'est la Hero 3 Plus.
Okay.
Mais il est accessible sur le site, si je ne me trompe pas, pour tous les utilisateurs de GoPro. C'est un appareil qui est excellent en faible lumière. La Hero 2, qui auparavant n'était pas super pour ça. Il y a eu une amélioration de ce côté-là. Ce que j'aime vraiment de cet appareil-là, je l'ai mentionné en début de topo, c'est la façon qu'on peut l'utiliser, où on la place, puis tout ça. C'est vraiment son point fort à cet appareil-là, vraiment, vraiment. Les accessoires qui viennent avec, les trucs comme ça.
C'est, ça donne un effet un peu large. Comme...
Oui, c'est très, très large.
On peut choisir l'angle de vision.
Ouais, c'est ça.
Il y a trois modes. C'est certain que le mode plus large, c'est fait pour être dans l'action. C'est on place l'appareil près de nous, donc on a besoin d'avoir un grand rayon d'action, un grand angle de vision. Si notre sujet est un peu plus éloigné, on peut carrément aller plus près en rognant l'image, puis ça va donner un super résultat aussi. Donc, c'est possible de le faire. Il y a des points que j'aime pas quand même de cet appareil-là. La durée de la batterie.
Ah oui?
Ouais. Étant donné qu'il y a le Wi-Fi... dans cet appareil-là, ça mange vraiment les batteries.
Oui, parce qu'on pourrait penser, parce qu'il n'y a pas d'écran pour visionner.
C'est, oui, dans les accessoires, on peut en avoir un. Il faut l'acheter.
Mais,
ça vient pas avec.
OK, mais c'est ça. Mais de base, on pourrait se dire ben, il n'y a pas d'écran, donc ça ne draine pas la batterie. Mais non, parce que tu es en Wi-Fi constamment pour le voir sur un autre appareil.
C'est exactement. Okay. Si on peut éteindre le Wi-Fi, c'est dit, l'allumer juste en mode, disons, cadrage. T'sais. Bon, mon appareil est placé, je le cadre avec le Wi-Fi, j'éteins le Wi-Fi après.
Okay.
Par contre, c'est le fun d'avoir l'image
ben
en
oui,
tout temps.
Ben oui.
Cet été, j'ai fait des tournages, j'ai installé ma GoPro sur le devant de la voiture. Ben, j'avais l'image en tout temps. Moi, j'étais à l'intérieur de la voiture, je voyais mes images. Je pouvais dire au conducteur, tourne là, suis cette voiture-là. J'avais un feed direct vidéo, c'était ben parfait. Oui. Là. C'était vraiment super pour ça.
Mais quand tu dis la durée de la pile n'est pas bonne, qu'est-ce que...
Ben, moi, je conseille d'acheter une deuxième batterie. En termes de temps, on parle de... En vidéo, c'est même pas une heure. Là.
Oh, OK.
Ouais, c'est... Yish, mais c'est pourquoi? Parce que quand on est en HD, le processeur travaille très fort.
Oh,
ça chauffe.
Oh, ouais. Non, mais c'est pas disons que c'est prévisible, mais c'est vrai que c'est pas long.
Mais la plupart, même avant, les caméras mini DV et tout ça, ou même les flips là, de Cisco il y a à peine quelques années, tu avais à peu près 2 heures d'autonomie maximum.
Ouais, même mini DV faisait ça, à peu près 2 heures.
C'est ça, tu avais une cassette de 2 heures dedans. Puis
ça
la batterie durait à peu près 2 heures. Ou, des fois, même, c'était une heure, je pense. Il fallait les recharger constamment. Fait que c'est un peu dans la même veine. Par contre, là, au moins, c'est ça. Est-ce que ça coûte cher, une batterie d'appoint?
Je crois que c'est dans les environs de 20 $.
20 $?
Oui. Attention, sur le site de B&H, qui ne me permettait pas de me l'envoyer aussi au Canada. Bon, n'empêche qu'il y a moyen sûrement de trouver ça autour de ce prix-là.
Ça s'arrange, ça.
Oui, sûrement. Et la Hero 3 Plus vient de sortir, effectivement, qui est une petite amélioration de la caméra que je viens de vous décrire. Donc, la Hero 3 Plus Black, le processeur d'image va être 2 fois plus rapide, selon ce qu'ils disent. Mm-hmm. Évidemment, je ne l'ai pas eu dans les mains pour la tester. Le boîtier serait 20% inférieur au modèle précédent en taille et en poids. Mm. L'autonomie de la batterie, un 30% de plus.
OK.
Bon, je ne sais pas comment ils ont obtenu ça, parce que la batterie...
Ils ont peut-être changé le type de batterie, tout simplement.
Ouais, mais les dimensions, je pense pas qu'elles soient différentes. Mais bon, 30% meilleur, apparemment.
Ou ils ont optimisé le fonctionnement de l'appareil lui-même.
Peut-être, oui. C'est vrai que en micro-logiciel, souvent, on peut améliorer bien des choses. Mm. La vitesse de transfert Wi-Fi serait 4 fois plus rapide.
Okay.
Donc, pour l'application, j'imagine que ça va permettre de visionner plus rapidement les images. Il y a un mode Super View. Bon, je suis allé voir sur YouTube, voir c'était quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait des tests pour dire, regarde, je vais essayer de voir le mode Super View, c'est quoi. C'est ben trop quand. Là, ça tout devient carrément distorsionné. Okay. On ne comprend plus trop. C'est trop large, de mon point de vue à moi. C'est un point de vente, c'est sûr, de dire que c'est encore plus wide que ce qui était déjà très wide avec GoPro. Bon, il y a ça qui est nouveau. Ils ont amélioré l'objectif aussi. Il y aurait une meilleure définition que celui sur la Hero 3 Black.
Okay.
Et en faible luminosité, ça serait encore meilleur que l'autre appareil. Donc, il y a un paquet de petits trucs qui font que l'appareil est meilleur que la Hero 3 Black.
Du raffinement, un peu, améliorations. Ouais. Mais c'était pas assez pour dire que c'était la Hero 4. Donc,
j'imagine que c'est un peu le principe de dire iPhone 4, iPhone 4S.
Exactement.
iPhone 5, iPhone 5. C'est ma critique de la GoPro Hero qui est un appareil que j'adore vraiment. Si j'avais à racheter ça, ça serait la même. Je pense pas que j'achèterais la Hero 3 Plus. Regardez les fonctions que j'ai avec la 3 normale. Ça suffit amplement.
Mm-hmm. Mais pour ceux qui n'en ont pas, la 3 Plus peut être intéressante.
À voir la différence de prix.
Oui.
C'est
pratiquement le même prix, je pense. Il n'y a pas une grosse différence. Honnêtement, pour avoir regardé rapidement, là, je crois que c'est à peu près le même prix. Maintenant, la Hero 3 Black et Silver ne sont plus disponibles. Il y a seulement la White, l'édition de base qui est encore disponible en mode Hero 3 seulement. La Silver et la Black sont devenues 3+. Donc, ça les remplace carrément. Et je pense que c'est à peu près au même prix que les anciens modèles étaient.
Magnifique.
Mais merci beaucoup, François, d'avoir enfin présenté ton petit
gadget, petit jouet que j'adore.
Faudrait-tu nous l'amènes à un moment donné pour la montrer?
Oui, absolument. Je vais faire ça.
Moi, j'ai eu la chance de tester le logiciel Perfect Photo Suite 7.5. Et d'ailleurs, la version 8 devrait arriver, je vous dirais, dans un mois à peu près. Donc, fin novembre, quelque chose comme ça. Mais, en attendant de voir les nouveautés, voici ce que la version 7.5 permet de faire. Et donc, la version 8 ne peut être qu'améliorée. Perfect Photo Suite, c'est évidemment un ensemble de logiciels pour la retouche photo, l'édition photo. Donc, ça comprend, entre autres, les logiciels Perfect Black and White, donc pour ajouter facilement un aspect dramatique, élégant ou classique à vos photos en noir et blanc. Donc, ça peut être une photo couleur qui est transformée, évidemment, en noir et blanc, mais vous avez un paquet d'outils spécifiques et spécialisés pour transformer une photo en noir et blanc. Il y a Perfect Portrait, qui est pour des outils de retouche spécialisés dans la photo de portrait, évidemment, donc lissage de peau, brillance des yeux, etc. Perfect Layers, qui fonctionne un peu comme les couches dans Photoshop, sans nécessairement utiliser Photoshop. Donc, ça fonctionne à partir d'Aperture, de Lightroom ou de façon indépendante. Alors, c'est une façon d'utiliser, de superposer des photos ou des images et de travailler avec des couches pour ajouter des effets. Parlant d'effets, il y a Perfect FX pour ajouter de l'impact à vos images parce qu'il y a une bibliothèque d'images, de cadres, de bordures, toutes sortes d'effets qu'on peut rajouter.
Des étoiles?
Probablement, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a plus de 400 effets. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Perfect Resize pour agrandir des images jusqu'à 1000% sans perte de netteté ou de détails.
Oh là là!
Permets-moi d'en douter de celle-là.
Je ne l'ai pas essayé. Mais en tout cas, je présume que ça va faire du recalcul et remettre des pixels, et, en tout cas, pour essayer d'obtenir. Mais je vais terminer la liste des logiciels et je vais vous parler de celui que j'ai utilisé le plus dans l'ensemble. Il y a Perfect Mask qui permet d'utiliser des masques un peu comme dans Photoshop, isoler un arrière-plan ou les éléments d'une photo, un peu comme on ferait dans Photoshop. Là, justement, on peut prendre une photo, disons, d'un building, puis on n'aime pas trop le ciel qu'on avait, on veut changer le ciel en arrière-plan, on va aller chercher un ciel dans la bibliothèque d'images de Perfect Photo Suite, puis on va travailler avec les masques et puis vraiment remplacer le ciel.
Altérer la réalité.
Scandaleux. Par contre, ça fonctionne très bien, je vais en reparler dans quelques instants. Et le dernier logiciel, c'est Focal Point, qui semble très intéressant et que je dois essayer. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire le tour complet de toute la suite de logiciels parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Tu viens d'en nommer 5, 6, 7, là?
C'est ça. Je suis rendu au 7e. Donc, Focal Point, ça sert à ajouter des effets de bokeh ou de flou à votre goût. Changer la profondeur de champ ou le point focal à partir de simulations d'objectifs existants.
Hey boy, hein.
Donc, on peut simuler la profondeur de champ d'un objectif F1.2 ou F2.8, des trucs comme ça, même si votre objectif à la base n'offrait pas de telles ouvertures.
Mais ça, je serais curieux de voir ça.
Oui, il va falloir que j'essaie ça. Et puis, c'est ça. C'est une suite d'outils puissants pour accomplir une foule de tâches. Les logiciels fonctionnent évidemment avec les fichiers RAW, donc ce qui est très utile, qui sont convertis pendant qu'on travaille dessus en fichiers PSD, en fichiers Photoshop. Surtout, bon, si vous jouez avec des couches et des masques, là, c'est très pratique. La suite elle-même, tous ces logiciels-là, on parle de 130$ américains, là, mais quand même, pour la compatibilité avec Aperture et Lightroom, ou 180$ compatibilité Aperture, Lightroom et Photoshop CC ou Elements. Sinon, ça fonctionne toujours en ce qu'ils appellent en standalone, là, en application indépendante. Et si vous achetez le logiciel avant que la version 8 arrive, évidemment, vous avez la mise à jour gratuite. Mais en plus, je crois qu'ils offrent un livre là, d'une quarantaine de dollars. Non, une vidéo de formation pour apprendre comment utiliser le logiciel et tout ça. Et qui, d'ici là, à ce que la version 8 sorte, c'est offert en prime. Si vous achetez chaque logiciel séparément, la plupart coûtent 30$, mais il y en a, j'ai vu, jusqu'à 70$ là, en version standard ou premium selon la compatibilité que vous voulez. Là. Donc, ça vaut la peine de se procurer la suite complète là, à 130$ ou 180$. Mm-hmm. C'est quand même un bon achat.
Bon rapport qualité-prix.
Oui. Et je parlais de vidéos de formation pour apprendre à s'en servir. Là, ben, ce qui est magnifique, c'est que la compagnie qui s'appelle On One Software offre des vidéos offre des webinars, donc des petits séminaires sur Internet en direct, gratuitement. Donc, il nous envoie une newsletter, là, un petit courriel, un email qui nous informe qu'il va y avoir des formations telle date, à telle heure, avec tel professeur ou tel professionnel. Et là, on peut apprendre à servir des masques, on peut apprendre à servir des couches, on peut apprendre à faire de la retouche de portrait. Ah. Et c'est gratuit.
Okay.
C'est pour apprendre à se servir des logiciels. Et j'en ai suivi un aujourd'hui même, avant l'enregistrement, pour Perfect Mask, justement. Et c'est vraiment génial. Il y a eu 3 exemples, 3 photos différentes avec où la personne changeait l'arrière-plan ou ajoutait une personne par-dessus un background, une photo qui avait été prise dans un château en France. Et il avait mis une fille avec une espèce de costume de chevalier, si on veut, des gros gants métalliques avec une épée, puis tout ça. Et comment faire la retouche pour enlever les réflexions parce que la photo de la personne avait été prise devant un drap vert, vert.
Okay.
Et là, ben, il y avait enlever des réflexions sur le métal. Okay. Il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Derrière les cheveux, c'est les cheveux fins, là, il y avait du vert à travers les cheveux. Et la personne a retouché la photo et il fait devant nous étape par étape. C'est merveilleux. Ça fonctionne très, très bien.
Ah, c'est intéressant.
Oui. Donc, moi, je dirais que quelqu'un qui ne veut pas nécessairement s'acheter justement Photoshop et compagnie, mais qui veut quand même pouvoir faire de la retouche photo ou altérer des photos ou peu importe. Juste pour le logiciel Focal Point, ça, j'ai très hâte de l'essayer. Mm. Mais c'est
une alternative intéressante pour ceux qui sont pas à l'aise avec Lightroom ou Photoshop, qui trouvent ça trop lourd.
Aussi,
ou,
parce que ça fonctionne aussi justement sans passer par Lightroom ou Aperture ou Photoshop. Donc, on peut s'en servir de façon indépendante. Et ce qui est merveilleux, justement, c'est toute la formation qui est offerte gratuitement pour apprendre à servir des logiciels.
Ça, c'est vraiment génial, sincèrement. Alors,
on peut
écouter
soit par les haut-parleurs de son ordinateur ou on peut téléphoner. On a un numéro de téléphone, évidemment, où on peut appeler et on suit la téléconférence par téléphone en même temps qu'à l'ordinateur.
Okay.
On a un petit plugin à installer sur son PC qui vient de la compagnie Citrix, qui est une compagnie très réputée.
Ouais.
Donc, il n'y a aucun problème du côté sécurité. Et c'est vraiment merveilleux. C'est arrivé... en fait, j'en ai suivi 2 petits séminaires comme ça. Mais il y en a un qui avait commencé un petit peu en retard, mais ça dure toujours à peu près 1h, 1h10. Puis s'ils commencent en retard, ben ils finissent quand même plus tard. Là. Donc, l'heure est respectée, mais ça coûte absolument rien. Donc, je vais publier le lien, évidemment, dans les notes d'épisode. Vous pourrez aller regarder ça et possiblement faire le saut vers Perfect Photo Suite. Et pour conclure l'épisode, on garde souvent Christian pour le dessert.
C'est-tu pas gentil?
On va avoir droit au test du Ricoh GR, petit appareil. De... En fait, Ricoh, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie, c'est la même compagnie que Pentax.
A été racheté par Pentax. Mm-hmm. C'était ma première expérience, d'ailleurs, avec un Ricoh. J'avais entendu parler de quelques affaires, entre autres... Il semblerait qu'il y a beaucoup de monde apprécie énormément les menus de Ricoh qui sont très, très bien organisés, très bien faits, etc. Je dois dire que c'est d'ailleurs un de ses points forts. C'est très, très bien organisé. Mm-hmm. Première chose, par contre, je dois dire, quand on voit l'appareil, du côté design, c'est pas le plus beau ou le plus frappant que j'ai vu. C'est correct. Mais, tu sais, je veux dire, il est pas exceptionnel ou rien de ça. Par contre, des fois, ça peut avoir des bons avantages. Mm-hmm. L'un d'entre eux, ben, on parle d'un appareil qui est assez plat, facile
à glisser dans une poche,
c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Très léger. Franchement, là. Puis surtout que c'est quand tu découvres que cet appareil-là a un capteur APS-C,
okay.
Pèse rien et minuscule, là, wow, ça commence à intéresser là, un petit peu plus, tu sais. La prise en main est quand même assez bonne, mais quoi que je dois dire, par contre, ça peut paraître étrange. Il y en a qui vont trouver peut-être bizarre, mais moi, je trouvais trop léger. Okay. C'est étrange. J'aime ça avoir quelque chose qui a un petit peu plus de poids dans mes mains. Pas nécessairement lourd, mais lui, c'était vraiment bizarre à cause de ça, la prise en main. Rien de majeur, là, mais tu sais, c'est juste... C'est une question de préférence. On parle d'un objectif fixe de 28 mm. Très, très, très compact, qui sort presque pas. F2.8, ce qui est très bon. Okay, ouais. Ça a bien du bon sens. C'est un appareil de 16.2 mégapixels, ISO de 100 à 25600. 3200 est encore assez propre, je pense. Peut-être 6400, mais en tout cas, j'ai malheureusement perdu toutes mes photos, ma carte de mémoire a cassé.
Ah non.
Il va falloir que je m'en rachète un autre, là, mais...
C'est fameuse carte SD.
Ouais.
Pourtant, m'est arrivé une fois à vie avec toutes mes cartes, mais enfin.
Bon, j'expliquerai pas comment elle a cassé, celle-là. D'accord. C'est pas de ma faute, mais disons que c'est de la faute d'un de mes trois petits...
Les petits enfants.
Bref. On parle de 4 images par seconde. Bon, c'est pas phénoménal, mais c'est correct. 1080p en 24, 25 ou 30 images par seconde. Il y a quelque chose, par contre, qui est quand même intéressant. On a un filtre ND de 2 stops built-in.
OK.
À l'intérieur.
Un filtre intégré. OK. Ouais. Ben, il y en avait un autre appareil que tu as testé, je pense qu'il y avait ça.
Je me rappelle pas lequel, mais oui, je sais qu'il y en avait un autre aussi. Je trouve que c'est quand même quelque chose, tu sais, tant qu'à l'avoir, ça peut être intéressant. Oui. Il y a aussi un mode où on peut prendre des photos à 10 mégapixels en l'équivalent de 35 mm.
OK.
C'est un zoom, là. On s'en cachera pas personne. Ouais. Là. Mais bon, ben regarde, je veux dire, ça peut toujours servir, là. C'est pas désagréable. Pour ce qui est c'est ça, de l'appareil, ben... L'objectif, bon, donne des photos avec une bonne netteté, tout ça. 2.8, ça permet quand même beaucoup de luminosité. Comme je disais, bon, 3200, peut-être même 6400. Là. J'hésitais, là, comme je dis, j'ai pas pu voir les photos plus qu'il faut vu que j'ai eu des petits problèmes. Là. Mais en voir sur Internet, là, ça va l'air de dire pas mal entre les deux. Fait qu'on pourrait peut-être m'aller jusqu'à 6400, que ça serait correct. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé du Nikon Coolpix A. Qui est pas mal la même équivalence, c'est-à-dire un petit appareil compact avec un capteur APS-C. Mm-hmm. Ben, cet appareil-là est 200$ de moins.
OK.
L'autre était 1000, lui, il est 800.
OK.
Encore une fois, ça, je pense que c'est un point qui est assez fort, quelque chose qui a du bon sens.
Est-ce qu'il y a un viseur intégré, lui? As-tu un viseur?
Non.
Non, OK. Parce que le Coolpix A non plus, il y en avait un externe qui faisait steampunk.
Ouais. C'était cool, mais pas commode.
Non, c'est ça. Et c'était cher.
Oui, mais... chargement USB. Okay. Ça peut être commode à l'occasion. Mais, et ça va tomber dans les négatifs, comme on a un chargeur USB, ça veut également dire que le chargeur ne peut pas être utilisé pour charger une deuxième batterie. Mm-hmm. Fait que ton chargeur sert juste pour ça. Si t'as besoin, si y a un autre, encore une fois, il y a un autre appareil comme ça qui avait le même problème. Le Sony, je crois.
C'est le Sony.
Ericsson, ouais. Ouais.
Mais c'est plus lent aussi en USB.
Mais étonnamment, j'ai... Non? En tout cas, je sais pas, mais ça a vraiment pas été très long pour charger celui-là.
OK.
Il est plugué dans le mur. Ben, quand il est plugué dans le mur, c'est vraiment pas long. En USB, bon, ça, c'est sûr que c'est pas super, mais ça peut toujours dépanner. Autre détail, ça a l'air bien niaiseux, là, mais quand je disais que l'apparence était pas très belle, il y a un plastique étrange un peu sur le... qui est comme rugueux, qui est pas super agréable.
C'est comme noir mât, puis en plus c'est rugueux, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est pas super agréable à tenir. Disons que j'aurais pas pris cette chose-là, mais c'est pas la fin du monde, là. C'est juste... c'est pas le... disons que c'est pas le genre de matériel que j'aurais pris, moi.
C'est esthétique, là.
Mais genre, ouais. C'est fatigant un peu à la longue. Sincèrement, okay. C'est pas majeur. Tu sais, je te dirais pas que c'est une affaire que tu fais comme « Ah oh, non, je l'achèterai pas », mais j'aurais vraiment pas choisi ce matériel-là parce que quand tu tiens ton appareil, c'est surtout le comme les deux doigts du haut, là, puis ça comme ça crotte toujours comme chose. C'est comme un espèce de papier sablé doux. C'est bizarre à dire, là, mais c'est pas agréable. J'ai pas trouvé ça
ben,
super...
C'est là où ils ont réussi à couper le 200$.
Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Puis la mémoire tampon, ben, est un petit peu limitée pour les photos RAW, là. On peut pas en avoir énormément. Mais okay. C'est tout.
OK, mais quand
c'est
même.
C'est pas grand-chose, sincèrement. Mm-hmm. Là, c'est vraiment des petites choses, là. C'est un appareil que j'ai bien apprécié, franchement, là, pour ce qu'il fait, pour le prix. C'est assez recommandé, sincèrement. Mais c'est très limité comme cible de public, par contre, là, parce mm-hmm. que, bon, c'est objectif fixe, c'est... bon, t'as un bon capteur, t'as de bonnes performances, mais l'objectif fixe, ça peut te tuer un peu, tu sais, mais...
Ouais, ouais. Mais l'objectif... Ouais, c'est ça, l'objectif fixe, en fait, à l'époque, même quand moi j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un petit 35 mm, mm-hmm. là, à pellicule, puis... J'avais pas de zoom avec l'appareil
non,
photo.
Non, mais
puis...
encore là, c'est parce que maintenant, on en a pas mal ben, tout le temps. Ça. C'est ça l'affaire, tu sais. Moi, j'ai autant, tu sais, j'ai pas détesté ça parce que ça force à faire des photos différentes. Ça te force à faire des choses différentes avec ça. Mais c'est juste que dans certaines situations, c'est moins commode parce que si tu peux te reculer ou t'avancer, ça va bien, mais c'est quand tu peux pas le faire, c'est là que t'es limité. Mais absolument. Pour faire de la photo artistique... Mais c'est génial parce que tu te promènes, tu t'en vas dans le centre-ville, tu glisses ça dans ta poche, puis tu pars avec.
La photo de rue, c'est parfait.
C'est superbe, franchement. Mm. Pour de la photo de rue, là, je le conseille fortement.
Mm-hmm. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, ça conclut ce 42e épisode. Ben, merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci François.
Merci.
Et merci, chers auditeurs, comme à l'habitude. Donc, pour nous rejoindre, questions, commentaires et suggestions, à podcast@objectifnumérique.com. Pour ceux qui veulent participer au 8e défi photo, vous envoyez votre photo à défi photo sans accent sur le E, donc défi photo@objectifnumérique.com. On vous rappelle qu'il y a un prix de Zenfolio et si vous voulez bénéficier d'un rabais de 20%, que vous participiez au défi ou non, vous pouvez utiliser le code numérique20. Je crois qu'il est valide jusqu'à la fin novembre ou quelque chose comme ça, ou fin décembre, mais bon. Ne perdez pas trop de temps. Et pour nous trouver sur les réseaux sociaux, Au Numérique sur Twitter et Objectif Numérique sur Facebook ou Google+. Et d'ailleurs, sur Google+, on a notre groupe de photographes amateurs. Donc, vous cherchez photographes amateurs au pluriel et vous allez trouver les 500 membres ou tout près d'eux qui en font partie et qui nous envoient de magnifiques photos. Merci, à la prochaine!